Alors, je ne savais pas ce que frère Guillaume cherchait. Et à vrai dire, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Et je présume que lui-même ne le savait pas, mu qu'il était par l'unique désir de la vérité, et par le soupçon que je lui vis toujours nourrir, que la vérité n'était pas ce qu'elle lui paraissait dans le moment présent. Et en ces années-là, il était sans doute distrait de ses chères études par les devoirs impérieux du siècle. La mission dont Guillaume était chargé me resta inconnue tout au long du voyage. Autrement dit, il ne m'en parla pas. Ce fut plutôt en écoutant des bribes de conversation qu'il eut avec les abbés des monastères où au fur et à mesure nous nous arrêtâmes que je me fis quelque idée sur la nature de sa tâche. Cependant, je ne la compris pas pleinement tant que nous ne parvînmes pas à notre but, comme je le dirai ensuite. Nous avions pris la direction du Septentrion, mais notre voyage ne suivit pas une ligne droite et nous nous arrêtâmes dans plusieurs abbayes. Il arriva ainsi que nous virâmes vers l'Occident tandis que notre destination dernière se trouvait à l'Orient, comme pour longer la ligne montueuse qui, depuis Pise, mène dans la direction des chemins de Saint-Jacques, en faisant halte sur une terre que les terribles événements qui s'y passèrent me dissuadent de mieux identifier, mais dont les seigneurs étaient fidèles à l'Empire et où les abbés de notre ordre d'un commun accord s'opposaient au pape hérétique et corrompu. Notre voyage dura 2 semaines, entrecoupé de moult vicissitudes, et dans ce laps de temps, j'eus la possibilité de connaître, pas suffisamment loin de là, comme j'en suis toujours convaincu, mon nouveau maître. Dans les pages qui suivent, je ne veux pas m'attarder à des descriptions de personnes, sauf quand l'expression d'un visage ou un geste apparaisse comme les signes d'un langage muet mais éloquent. Car, comme dit Boès, rien n'est plus fugace que la forme extérieure, qui fane et se métamorphose comme les fleurs des champs au début de l'automne. Et que signifierait de dire aujourd'hui que l'abbé Abbon avait l'œil sévère et les joues pâles, quand désormais lui-même et ceux qui l'entouraient sont poussière, et que de la poussière leur corps a désormais la grisaille mortifère, l'âme seule, si Dieu le veut, resplendissant d'une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Mais Guillaume, lui, je voudrais le décrire, et une fois pour toutes, car chez lui me frappèrent aussi les traits singuliers, et c'est le propre des jeunes gens que de se lier à un homme plus âgé et plus sage, non seulement pour le charme de sa parole et la sagacité de son esprit, mais bien aussi pour la forme superficielle de son corps, qui se fait plus cher comme il advient pour la figure d'un père, dont on étudie les gestes et le courroux, dont on épie le sourire, sans qu'aucune ombre de luxure ternisse cette manière, unique peut-être en son extrême pureté d'amour corporel. Les hommes d'autrefois étaient beaux et grands, maintenant ce sont des enfants et des nains. Mais c'est là fait parmi tant d'autres témoignant du malheur d'un monde qui vieillit. La jeunesse ne veut plus rien apprendre, la science est en décadence, le monde entier marche sur la tête, des aveugles guident d'autres aveugles et les font se précipiter dans les abîmes, les oiseaux se lancent dans le vide avant d'avoir volé, l'âne sonne de la lyre, les bœufs dansent, Marie n'aime plus la vie contemplative et Marthe n'aime plus la vie active. Léa est stérile, Rachel a l'œil charnel, Caton fréquente les lupanards, Titus Lucrèce devient femme. Tout est détourné de son propre cours. Dieu soit loué. Moi, en ces temps-là, j'acquis de mon maître l'envie d'apprendre et le sentiment du droit chemin qu'on garde quand bien même la sente serait tortueuse. Or donc, l'apparence physique de frère Guillaume était telle qu'elle attirait l'attention de l'observateur le plus distrait. Sa taille dépassait celle d'un homme normal, et il était si maigre qu'il en paraissait plus grand. Il avait les yeux vifs et pénétrants. Son nez effilé et légèrement aquilin conférait à son visage l'expression de quelqu'un qui veille, sauf dans les moments de torpeur dont je parlerai. Son menton aussi révélait en lui une forte volonté. Même si son visage allongé et recouvert d'éphélides, comme souvent de fois je le vis chez les gens nés entre l'Hibernie et la Nosembrie, pouvait parfois exprimer incertitude et perplexité. Je m'aperçus avec le temps que ce qui paraissait manque d'assurance était au contraire et seulement curiosité. Mais au début, je savais bien peu de cette vertu que je croyais plutôt une passion de l'esprit concupiscible, pensant que l'esprit rationnel ne devait pas s'en nourrir, comme il ne se repaissait que du vrai qu'on connaît déjà, argège, dès le commencement. Enfant que j'étais. La première chose qui m'avait frappé chez lui, c'était certains toupillons de poils jaunâtres qui sortaient de ses oreilles, et ses sourcils touffus et blonds. Il pouvait compter 50 printemps, et il était donc déjà très vieux, mais son corps infatigable se déplaçait avec une agilité qui me faisait souvent défaut à moi-même. Son énergie paraissait inépuisable quand il devait affronter un excès d'activité. Mais de temps en temps, comme si son esprit vital participait de l'écrevisse, il allait à reculons dans des moments d'inertie, et je le vis rester des heures durant sur son grabat dans sa cellule, prononçant à grand-peine quelques monosyllabes sans contracter un seul muscle de son visage. En ces occasions-là, apparaissait dans ses yeux une expression de vide et d'absence, et j'aurais soupçonné qu'il était sous l'empire de quelque substance végétale susceptible de donner des visions, si l'évidente tempérance qui réglait sa vie ne m'avait pas induit à repousser cette pensée. Toutefois, je ne cacherai pas que, au cours du voyage, il s'était parfois arrêté au bord d'un pré, à l'orée d'une forêt, pour recueillir certaines herbes, toujours la même, je crois, et il se mettait à la mastiquer, les absorber. Il en gardait sur lui une petite provision et en mangeait dans les moments de plus grande tension, et nous en eûmes souvent à l'abbaye. Quand une fois je lui demandais de quoi il s'agissait, il dit en souriant qu'un bon chrétien peut parfois prendre des leçons même chez les infidèles. Et quand je lui demandais d'en goûter, il me répondit que, comme pour les discours, il y a aussi des simples pour les païdikoi, les ephébikoi et les ginaikeioi, et ainsi de suite, si bien que les herbes qui sont bonnes pour un vieux franciscain ne sont pas bonnes pour un jeune bénédictin. Dans le temps que nous fûmes ensemble, nous n'eûmes pas l'occasion de mener une vie très régulière. À l'abbaye même, nous veillâmes la nuit et tombâmes de fatigue le jour, et ne prîmes point régulièrement part aux offices sacrés. Pourtant, rarement, en voyage, il veillait passer complis, et il avait des habitudes frugales. Quelquefois, comme il advint à l'abbaye, il déambulait toute la journée dans le potager, examinant les plantes comme si c'était des chrysoprases ou des émeraudes, et je le vis rôder dans la crypte du trésor, en regardant un écrin constellé d'émeraudes et de chrysoprases, comme si c'était un buisson de stramoine. D'autres fois, il restait un jour entier dans la grande salle de la bibliothèque, en feuilletant des manuscrits comme pour son seul plaisir, quand autour de nous se multipliaient les cadavres de moines horriblement oxys. Un jour, je le trouvai qui se promenait dans le potager sans aucun but apparent, comme s'il ne devait pas rendre compte à Dieu de ses œuvres. Dans l'ordre, on m'avait enseigné une toute autre façon de répartir mon temps, et je le lui dis. Et il répondit que la beauté du cosmos est donnée non seulement par l'unité dans la variété, mais aussi par la variété dans l'unité. Ce me sembla une réponse dictée par un empirisme sans gêne, mais j'appris par la suite que les hommes de sa terre définissent souvent les choses de façon telle qu'on dirait que la force illuminante de la raison n'y a pas grand rôle. Pendant la période que nous passâmes à l'abbaye, je lui vis toujours les mains recouvertes de la poussière des livres, de l'or, des enluminures encore fraîches, de substances jaunâtres qu'il avait touchées dans l'hôpital de Séverin. On aurait dit qu'il ne pouvait penser qu'avec les mains, chose qui alors me semblait plus digne d'un mécanicien, et on m'avait appris que le mécanicien est moecus, et commet un adultère au regard de la vie intellectuelle à laquelle il devrait être uni en un très chaste nœud, mais quand bien même ses mains touchaient des choses très fragiles, comme certains codes aux miniatures encore fraîches, ou des pages consumées par le temps et friables comme du pain azyme, il possédait, me sembla-t-il, une extraordinaire délicatesse de tact, la même dont il usait pour toucher ses machines.